et d'entendre tout à l'heure. Olivier nous a lu aussi donc dans l'Épître aux Hébreux, et je reviendrai juste sur ce passage. Chapitre 2, verset 14. « Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblement y a participé, afin que par la mort il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. » Car certes, il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a souffert, lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Et puis, si nous revenons donc aux évangiles, l'exemple du Seigneur, ou plutôt ce qu'il a éprouvé dans son cœur, nous parle bien sûr de son humanité parfaite. C'est un mystère insondable. Ce que nous avons lu dans l'évangile selon Jean, ou dans l'évangile de Marc, de ce qui était au plus profond du Seigneur. Ce sont des expressions très fortes, mais elles nous rendent sensibles. Elles nous attirent à lui. Parce que, j'allais dire, il est comme moi. Il est comme nous. Il est semblable. Il a vécu. Mais nous le savons bien sûr mieux encore, il a vécu ce que je vis dans mes souffrances, dans mes tentations, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Paul dira, je rappelle ce verset de la première Épître à Timothée, Paul dira, 1 Timothée 2, verset 14, « Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, il lui pressait de dire ce qui suit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée de Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » A été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Nous savons bien aussi ce que Paul écrit dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Et ça touche profondément nos cœurs, l'humanité du Seigneur. Mais s'il n'y avait que cette humanité, si on peut s'exprimer ainsi, on perdrait tout. La grandeur du salut que nous avons donné, et Olivier a employé dans la prière de la scène une expression qui m'a beaucoup touché. Seigneur s'est fait homme pour pouvoir mourir. Oui. Seigneur est venu pour cela. Il est descendu, il a pris un corps. Il est devenu un homme comme moi. Nous chantons dans un cantique, comme moi. Et alors, lorsqu'il y a des circonstances difficiles, eh bien, nous nous raccrochons à Matthieu 11. que nous connaissons bien. Cherchez pas. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler, venez à moi. Vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. L'ordre dans lequel la révélation nous est faite ici est remarquable. Dans la conscience de ce que je suis, ce que j'ai besoin du Seigneur, eh bien, je comprendrai, je vivrai cette révélation qu'il nous donne. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Père et Fils, des expressions humaines, et pourtant c'est Dieu. Je peux connaître Dieu au travers de la souffrance, car je connaîtrai un Père. Et je connaîtrai son Fils. Je peux connaître Dieu, la grandeur de Dieu, au travers de la débonnaireté et de l'humilité du Seigneur. Apprenons-le à le connaître comme cela. Il y a deux autres expressions qu'on trouve dans l'Évangile selon Jean. Un petit peu avant ce chapitre 13, je vais les lire dans l'ordre qui nous est donné dans cet évangile. Chapitre 11. Verset 32. Marie donc, quand elle fut venue là où était Jésus, et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleura, frémit en son esprit. Et la note dans la traduction d'Arbi, nous dit « se tenir ici », c'est l'expression de la peine profonde mêlée d'indignation produite dans l'âme du Seigneur à la vue du pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Oui, il est compatissant et humble de cœur. Il sait. Il a connu cela, nous l'avons lu ce matin. Donc il peut aider. Il peut m'aider. Il le peut d'autant plus que j'ai confiance en lui parce qu'il a traversé ses souffrances. Frémit dans son esprit et pleure. C'est ce Seigneur dont nous avons tous besoin. Il l'a fait là. Et quelle est la conséquence, spirituellement parlant, parce que il y a bien sûr eu cette résurrection de Lazare. Eh bien, il me fera connaître, comme le psalmiste peut le dire, tu me feras connaître le chemin de la vie. Prophétiquement, c'est pour le Seigneur. Mais pour nous aussi, on connaît le chemin de la vie parce que nous connaissons le Seigneur compatissant. Et nous savons qu'il pleure dans nos circonstances, mais il ne s'arrête pas là. Ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu ? Lisons-nous un petit peu après. Lazare sort dehors et le mort est ressuscité. Celui qui sait mieux que tout autre compatir à nos souffrances, c'est celui qui répond parce qu'il est Dieu aux circonstances difficiles. Il veut que notre foi grandisse. Deuxième passage que nous avons dans l'Évangile selon Jean, c'est un petit peu après, au chapitre 12 et au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Il vint donc une voix du ciel, et je l'ai glorifié, je le glorifierai de nouveau. La foule donc, qui était là et qui avait entendu, dit qu'un coup de tonnerre avait eu lieu. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus répondit et dit, cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Cette voix n'est pas venue pour moi, mais pour vous. Ah, la parfaite humanité du Seigneur, ce mot de troublé. Il parle de son âme. Je pense pouvoir dire, d'autres commentateurs l'ont écrit et dit, Jésus n'a jamais été troublé dans son esprit. Il a été troublé dans son âme, ce qui montre bien la particularité, le terme n'est pas bon, mais l'essence même humaine du Seigneur, parfaitement homme, sans péché certes, mais parfaitement homme. Et que dirais-je ? Gethsémané n'avait peut-être pas eu lieu, c'est pas facile de faire une chronologie. Mais ce n'est pas exactement les circonstances que nous avons lues dans l'Évangile selon Marc qui sont remarquables. Elles ont eu lieu probablement après. Et que dirais-je ? On est muet devant la souffrance. On est muet devant l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous délivrer. C'est cela dont il est question ici. Et il s'est soumis. Nous l'avons lu dans la troisième circonstance, que ta volonté soit faite. Et il dit aussi sous une autre forme, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Pouvait-il le faire sans le secours du Père, de Dieu son Père ? Non. C'est remarquable. Il était Dieu, mais il était homme. Il était là. Il a entendu cette voix. Et il dit à son Père, « Mais Père, je suis venu pour cela. Je sais. » Mais j'ai besoin de ta délivrance. Et c'est l'exercice de foi que le Seigneur nous montre ici, le chef et le consommateur de la foi est là pour nous. Il nous montre le chemin, l'exemple. La foi ne peut pas avancer sans des renoncements. Ils sont souvent intérieurs, ils sont souvent vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne les montrons pas. C'est le secret entre Dieu et nous, mais ils sont bien réels, ces renoncements. Mais la foi sait ce qu'elle a à faire. L'exemple du chef et du consommateur, celui qui a pleinement accompli l'exemple parfait de la foi, c'est le Seigneur, et bien c'est ce qu'il nous montre ici. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. Jean emploie souvent cette expression de cette heure, comme étant bien sûr, en pointant ce moment unique dans l'histoire de l'humanité, de la crucifixion du Seigneur. Glorifie ton nom. Voilà le but. Voilà le but aussi pour nous, dans les circonstances difficiles que nous pouvons traverser. Nous connaissons pas l'issue, elle appartient à Dieu. Mais ce que nous pouvons lui demander, et qui sied à toute prière, à toute supplication, c'est glorifie ton nom, que ta puissance, que toi-même sois vu au travers des circonstances que je traverse. Et alors, la réponse ne se fait pas attendre. Bien sûr que le Seigneur avait besoin de ce suprême encouragement qui vient du ciel, mais nous l'avons lu, cette voix est surtout pour nous. Et qu'est-ce que nous entendons ? Des encouragements pour nous ? Non. Ce que nous entendons, c'est que Dieu nous dit « Regardez au Seigneur ». Et je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Regardez ce qu'il a fait et vous verrez ce qu'il va faire. C'est formidable. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est totalement dynamique. Ayez confiance, je répondrai. Le Seigneur a souffert. Il a montré ma gloire, nous dit Dieu, au travers de ce qu'il a souffert, il le montrera. Et nous savons bien qu'il l'a montré. Il a glorifié Dieu dans sa mort sur la croix. Et il a été glorifié par Dieu, trois expressions. Lui-même s'est glorifié, le Saint-Esprit l'a glorifié, Dieu l'a glorifié, mais ce n'est pas tellement ce qui est devant moi actuellement, mais c'est la leçon pour nous. Et c'est une leçon d'encouragement. Ce que j'ai fait pour le Seigneur, je le ferai pour vous, mais glorifiez-moi. Marchez selon ce que vous avez appris et connu de moi. Et moi, je prendrai soin de vous. Ce n'est pas un ange qui parle, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un ange qui est venu, c'est le Fils de Dieu. Dieu lui-même manifesté en chair. Alors on se pose des questions si on lit la suite de ce passage. Il indique de quelle mort il allait mourir. Et il indique un petit peu après, Jésus donc leur dit encore un peu de temps, la lumière est au milieu de vous, verset 35, donc marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous, et celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et nous avons cette lumière. Le Seigneur s'adresse à ceux qui l'entouraient à ce moment-là pour les inciter à connaître cette lumière et à la suivre. Mais nous avons cette lumière. Elle est au milieu de nous, toute notre vie. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez fils de la lumière. Jésus dit ces choses en s'en allant. Il se cacha de devant eux. C'est remarquable, on le voit souvent dans l'Évangile. Jésus, après avoir fait une révélation ou une action merveilleuse, disparaît. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que notre cœur, notre être tout entier, soit saisi par lui. Uniquement. Il veut que nous réfléchissions à ce qu'il nous a dit, que nous faisions notre ce qu'il nous a dit, que nous le suivions dans l'amour, sur le sentier de la lumière. C'est cela qu'il veut. Et l'humilité du Seigneur est telle qu'il disparaît. Mais il brille dans chacun de nos cœurs. Je m'arrête.
Exprimer une pensée. Une pensée, évidemment, je vais la développer, mais c'est une pensée, pas deux. Tout à l'heure, dans la prière, lorsque notre frère a prié, il a fait allusion, il a prié en disant, remerciant Seigneur de ce qu'il nous a régénéré. Et en nous régénérant, nous sommes une nouvelle créature. Choses vieilles sont passées, voici, elles sont toutes nouvelles. Donc il y a là un miracle, le miracle d'une nouvelle vie. Alors d'abord, je vous lis un verset. J'en lirai plusieurs. Premier verset, c'est dans l'épître de Tite, très connu, très connu, mais je m'arrêterai sur la deuxième partie du verset. Épître à Tite, chapitre 2, et au verset 11. Ce sont des versets que souvent on en parle. Mais moi, je m'arrêterai à la deuxième partie. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Et voilà la deuxième partie, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous parler donc là de l'espérance. L'espérance. Voilà. Qu'est-ce que l'espérance d'abord ? Est-ce que vous avez remarqué qu'on utilise, on l'utilise dans ce monde, on l'utilise, tiens, un médecin, à peu près cet homme-là ou cette femme, elle a 5 ans de vie d'espérance. Dans le monde, donc, le mot espérance a le même sens que espoir. Et là, il y a une différence entre espoir et espérance. L'espoir, c'est... Ouais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y a le doute, on ne sait pas. On a l'espoir que, voilà, hein, je ne fais pas d'exemple. L'espérance, c'est tout autre chose. C'est une vertu, c'est quelque chose. Le mot espérance en lui-même, c'est un substantif grammaticalement. Et qui, en lui-même, il est porteur de tout le sens de ce qu'on veut dire. L'espérance, voyez-vous, quand en espagnol on dit la sala de esperanza, ça veut dire la salle d'attente. Dans le mot espérance, n'est-ce pas, espoir, espérant, l'espérance, il y a la notion d'attente, mais une attente qui est sûre, certaine, qui va s'accomplir. La parole de Dieu nous dit donc que nous portons, nous chrétiens, avec nous, nous avons quelque chose. qui est appelé attendant la bienheureuse espérance. Attendant. Et cette espérance, au bout du compte, vous, n'est pas, est personnifiée parce que l'attendant cette bienheureuse espérance, c'est soit le retour, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, soit la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une attente qui est en nous, qui est sûre. Et d'ailleurs, quand nous sommes dans l'épreuve, en général, tout de suite, Seigneur, si tu pouvais revenir, il y a quelque chose en nous de fort, très fort, qui fait que c'est cette espérance qui se manifeste. Épître de Pierre. Alors, premier épître de Pierre. Premier épître de Pierre. Au chapitre 1er. Au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi il nous a régénérés ? Pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux, pour vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. La régénération. Lorsque je travaillais dans la chimie fine, je fabriquais des médicaments. On arrivait à un stade où il fallait purifier une certaine solution, voire par exemple le sucre roux que vous utilisez et le sucre raffiné. Comment on passe du sucre roux au raffiné? On fait une solution et on le fait passer à travers un filtre. Et ce filtre, c'est du charbon actif. Et ce charbon a la capacité de retenir toutes les impuretés. Au bout du compte, on a une solution cristalline, on la refroidit et on a les beaux cristaux du sucre raffiné. Voyez-vous, la régénération, c'est un peu ça. C'est que nous avons en nous trois entités que sont l'esprit, l'âme et le corps. Et la parole de Dieu nous dit à maintes reprises que notre esprit doit être régénéré. Notre âme doit être régénérée. Et tout notre être entier doit être régénéré. Et comment peut-il être régénéré? Le filtre, quel est le filtre? Eh bien, la parole de Dieu, vous l'avez compris, le précieux sang. Vous n'avez pas été racheté par de l'or et de l'argent, mais par à travers le précieux sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés. Voilà la régénération. Esprit donc régénéré, âme régénérée, n'est-ce pas? Pour vivre, l'apôtre nous dit ici, une espérance comment? Vivante. Si la parole de Dieu nous parle d'une espérance vivante, ça veut dire que dans ce monde, il n'existe qu'une espérance qui est non vivante, qui est morte. Et c'est pour ça que les gens sont malheureux dans la tristesse parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et s'ils en ont une, c'est l'espoir qui est appelé, c'est une espérance morte. Nous les chrétiens donc, quand nous entrons dans le royaume de Dieu, eh bien Dieu nous fait cadeau d'une espérance vivante. Et il faut qu'elle soit active, cette espérance vivante. Elle est précieuse. Comment elle se manifeste, cette espérance? Ça, c'est mes exemples, hein. C'est mes exemples à moi. Nous arrivons là au printemps. Et hier, avant-hier, l'autre jour, les arbres, ils étaient tous presque pareils. On voyait des arbres avec des rameaux, tous pareils. Et puis, à un certain moment, alors quand on a vu ça, on se dit, est-ce qu'il va fleurir, est-ce qu'il va avoir des feuilles ou pas de feuilles? On ne sait pas. On espère que l'arbre va verdir. Mais c'est de l'espoir. J'espère que l'arbre va verdir. Mais quand les fleurs pollinisées sont là, même si on ne voit pas les fruits, nous sommes certains qu'à l'automne, quand surtout si on voit des belles abeilles butiner, eh bien, on sait certain qu'à l'automne, il y aura des fruits. C'est un peu ça la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, je vois les branches qui sont là, je ne vois rien, mais je ne sais pas s'ils sont morts ou pas, et s'ils vont fleurir ou pas. Mais quand l'arbre porte la vie, et qu'il porte les feuilles, et qu'il porte les fleurs, je sais. Et c'est un peu ça la bienheureuse espérance de le retour du Seigneur Jésus-Christ que nous avons en nous. Nous savons, c'est une certitude, l'espérance est une certitude que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Voilà ce que je voulais simplement dire. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Abraham. Et cet homme a eu une particularité, c'est d'avoir, contre toute espérance, nous dit l'épître aux Romains, au chapitre 4, contre toute espérance, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a eu de l'espérance. Et il est devenu, pour devenir quoi? Le père de tous les croyants. Il n'y avait rien à espérer. Il était âgé. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. 90 ans. Oh, c'est pas jeune, ça. Hein? Pas jeune. Il avait contre toute espérance. Et lui, Dieu avait parlé, Abraham crut contre toute espérance. Et non seulement il a espéré, mais il a eu une autre vertu en lui que nous n'avons pas, c'est la patience. Car voyez-vous, il y a trois éléments au niveau de l'espérance. Il y a la foi, dont tu as parlé, la foi qui était fondamentale, étroitement liée avec quoi? Avec la foi, étroitement liée avec la patience. Et la patience est étroitement liée à l'espérance. Les trois, ça fait, forme quelque chose et qui devrait être la caractéristique réellement de croyants, réellement régénérés. La foi, il y a l'espérance et la patience. N'est-ce pas? L'Épître aux Corinthiens, il nous parle des trois vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Mais là, je parle de la patience. La foi, la patience, l'espérance. Car l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham, ayant eu patience, a obtenu ce qu'il était promis. Voilà, j'ai terminé. Et je fais la synthèse. Il y a donc chez nous, chrétiens, que nous avons été régénérés. Le Seigneur s'est plu à placer en nous cette valeur, cette vertu extraordinaire qui s'appelle la foi, qui, elle, alimente la foi. La foi alimente l'espérance. Mais au milieu, nous avons la responsabilité de ne pas contester, de ne pas nous décourager, mais d'avoir attendre patiemment le temps que le Seigneur a fixé pour la gloire. C'est un parcours, c'est une vie, c'est la beauté de la vie chrétienne, d'avoir la foi, d'avoir de la patience, de l'espérance. Espérance, je le répète, une attente sûre que le Seigneur ne fasse la grâce de lui faire confiance et d'attendre réellement l'avènement, c'est l'avènement, c'est cette chose fabuleuse quand le roi viendra, n'est-ce pas, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.